Florent Pagny sur Grand Sud FM, c'était Et un jour une femme. Il est 11h34 et nous repartons au Salon du Livre du Grand Narbonne. On retrouve Marilyn avec un nouvel invité.
Alors deux invités sur le stand numéro 1, juste à l'entrée du Salon du Livre, Jean Guilaine et Pascal Pic. Je suis déjà en compagnie de Jean Guilaine, bonjour.
Bonjour.
Jean Guilaine, vous êtes audois, je pense que les audois vous connaissent bien. Vous êtes un spécialiste mondialement reconnu, vous êtes membre de l'Institut, professeur émérite au Collège de France et à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes le spécialiste du néolithique et de l'âge de bronze et votre réflexion théorique porte sur l'archéologie des premières sociétés agricoles. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Aujourd'hui, on vous retrouve sur le Salon du Livre du Grand Narbonne avec un ouvrage qui s'appelle « Un désir d'histoire, l'enfance d'un archéologue ». On parlera aussi de « L'aube des moissonneurs », ça c'est un livre entretien. On avait déjà eu l'occasion d'en parler sur Grand Sud FM puisqu'on avait reçu Laurence Turetti. Donc tout d'abord, Jean Guilaine, présentez-nous Un désir d'histoire, l'enfance d'un archéologue. On plonge au cœur de l'enfance de Jean Guilaine finalement.
Tout à fait, tout à fait. Dans cet ouvrage, j'ai voulu un peu décrire ce qui s'était passé dans ma vie depuis mes plus anciens souvenirs jusqu'à l'âge de 15-16 ans environ. Voilà, donc c'est un peu l'histoire des premiers temps de ma vie.
L'histoire des premiers temps de votre vie, donc, vous commencez, vous aviez quel âge finalement, Jean Guilaine?
Qu'est-ce que vous voulez dire là?
Vous avez commencé à vous intéresser à l'archéologie à quel âge? Vous me disiez tout à l'heure, c'est votre père en fait qui vous a un peu guidé vers l'histoire.
Tout à fait. Autrement dit, il y a deux personnes, en fait, disons deux éléments qui ont joué dans ma vie. D'une part, c'est mon père, qui n'avait pas fait d'études d'ailleurs, mais qui était un passionné d'histoire. Alors lui, et puis un professeur du secondaire, vous savez, il y a toujours des rencontres comme ça dans la vie, m'ont donné le goût de l'histoire. L'archéologie, c'est de l'histoire. Et puis, de l'autre côté, j'ai vécu à la campagne, dans un petit village des Corbières, qui s'appelle Ville-Bazis, d'où ma mère était originaire. Et là, j'ai vu, en quelque sorte, les mutations qui ont caractérisé le monde paysan. Parce que dans mon enfance, moi, il n'y avait pas de tracteur. C'était les chevaux, c'était les bœufs qui tiraient les charrettes. Tout le travail était manuel, carrément, voyez. Puis j'ai vu arriver les tracteurs après la libération, etc. Donc j'ai vu ce monde paysan évoluer. Et j'ai voulu, à travers le néolithique, essayer de rechercher les origines de ce monde rural. Au fond, j'ai fait de l'histoire rurale, j'ai fait de la paléo-histoire rurale dans ma vie de chercheur.
D'accord. Et l'archéologie, est-ce qu'on peut en parler avec vous, Jean Guilaine? Parce que l'archéologie, c'est quand même une science de terrain. On peut pas aujourd'hui, enfin si vous me disiez tout à l'heure peut-être, on ne peut pas pour moi faire de l'archéologie dans un bureau. C'est ce qui vous captive, cette science de terrain, d'aller sur le terrain, de découvrir la vérité?
Oui, oui. Le terrain, c'est en quelque sorte la porte d'entrée en archéologie. Parce que lorsque vous faites du terrain, vous avez les données qui surgissent du sol sous vos yeux. Vous savez ce que vous pouvez dire, vous savez ce que vous ne pouvez pas dire. Parce qu'il y a deux niveaux en archéologie. Il y a l'observation et puis il y a l'interprétation, qui reste une hypothèse, bien entendu. Mais pour que l'interprétation soit le plus juste possible, il faut que le terrain soit bien observé. Et puis là, vous faites la part des choses. Vous dites ça, je pense à telle théorie. Mais cette théorie, elle n'est pas tout à fait confortée par le terrain. Donc, elle n'est pas trop fiable. Et plus vous avez des expériences de terrain qui vous confortent dans un certain sens, plus vos théories, évidemment, ensuite sont justes et fiables. Vous voyez, en quelque sorte, le terrain, c'est incontournable. C'est l'heure de vérité en archéologie.
Oui, j'imagine. Hein, si on a peut-être des passionnés d'archéologie qui nous écoutent, qui viennent vous voir, Jean Guilaine, sur ce stand numéro 1. J'aimerais aussi parler avec vous de l'aube des moissonneurs. Donc ça, c'est différent. C'est un livre entretien. Et c'est en fait Laurence Turetti et le journaliste Georges Chalulot qui l'ont écrit à quatre mains. Alors comment est-ce que vous êtes rencontrés et comment germait l'idée d'en faire un livre?
Oui, je connaissais Georges Chalulot, qui a été journaliste dans la région, n'est-ce pas? Je connaissais moins Laurence Turetti, nous sommes devenus amis depuis. Ils sont venus un jour à l'ADER, où je vis, dans les Corbières, et m'ont dit « Bon, on veut faire un livre sur vous, un livre d'entretien, un livre d'interview. » Et ça a débuté comme ça. Alors, on va parler dans ce livre d'abord des sociétés néolithiques en général, puis ensuite un chapitre sur le néolithique dans l'Aude, c'est-à-dire que vous avez tout un chapitre sur ce qu'étaient les premiers paysans de l'Aude, en gros entre 6000 et 2000 avant notre ère. Et puis ensuite, alors, un chapitre plus général d'entretien sur que pensez-vous de l'archéologie, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, en quelque sorte. Donc, un regard sur la discipline.
Voilà, donc on le disait tout à l'heure, hein, tous ceux qui sont intéressés par l'archéologie, je pense que vous allez vraiment y trouver votre bonheur. On a eu la chance de recevoir Laurence Turetti à la radio qui nous avait déjà bien présenté l'aube des moissonneurs. Alors, on va retrouver Pascal Pic dans quelques instants, parce que Pascal Pic, Jean Guilaine, vous allez vous retrouver tous les deux pour une intervention de 14h30 à 15h15 aujourd'hui à l'espace rencontre du Salon du Livre du Grand Narbonne, hein, qui, je le rappelle, est installé sur le cours Mirabeau. Vous allez vous retrouver pour un dialogue intitulé « L'appel de la vocation, l'élan de la passion ».
Oui, tout à fait.
Et qu'est-ce que vous allez nous proposer ?
Bon, écoutez, nous allons vous parler, moi, de mon enfance et Pascal Pic, du thème de son ouvrage « Itinéraire de l'enfant des Trente Glorieuses ».
Comment vous êtes rencontrés tous les deux, vous connaissiez déjà ?
Assez fortuitement d'ailleurs, parce que moi je suis d'une génération un peu plus ancienne que celle de Pascal, et j'avais comme collègue que j'ai beaucoup fréquenté, en particulier au Collège de France, Yves Coppens. Il se trouve qu'Yves Coppens était le patron de Pascal Pic. Donc vous voyez, en définitive, la famille des préhistoriens est petite.
Voilà, c'est un petit monde, tout le monde se connaît.
Absolument.
On espère un monde qui va s'agrandir un petit peu, parce qu'on a peut-être des jeunes auditeurs qui nous écoutent et qui aimeraient, pourquoi pas, rentrer dans l'archéologie, qui ont ce rêve. C'est un rêve qui est accessible, mais un rêve qui demande du temps.
Oui, et puis il faut se méfier un peu, c'est un peu le miroir aux alouettes, c'est-à-dire ça plaît beaucoup, mais il y a peu d'élus, parce qu'en définitive, vous savez, les postes, c'est le CNRS, l'université, les musées, l'INRAP maintenant, qui a un personnel assez conséquent, mais évidemment, beaucoup d'appelés, peu d'élus en définitive. Donc il faut être prudent avec l'archéologie.
Bon, il faut venir vous voir pour échanger avec vous, Jean-Guilaine.
Oui, mais quand on a la foi et l'enthousiasme, on finit toujours par arriver.
Merci beaucoup et j'espère qu'on aura la chance de vous retrouver bientôt dans les studios de Grand Sud FM. Merci, bon salon, vous êtes là tous dimanche ?
Tout à fait, tout à fait.
Allez, stand numéro 1, je vais aller voir Pascal Pic, hein, qui est occupé. Est-ce que Pascal Pic va avoir quelques minutes à m'accorder ? Pascal Pic, qui est paléoanthropologue, mondialement réputé, ancien chercheur à l'université de Duke aux États-Unis et au Collège de France. Bonjour.
Bonjour.
Donc, j'ai déjà échangé un petit peu avec Jean Guilaine. Et vous, en fait, vous êtes venu nous présenter un ouvrage qui s'appelle « Itinéraire d'un enfant des Trente Glorieuses ». Comme Jean-Guilaine, vous nous racontez un parcours de vie, mais on n'est pas sur le même créneau, si je puis dire.
Alors, on n'est pas sur le même créneau. Le domaine de Jean-Guilaine, c'est un petit peu jeune pour moi, parce qu'effectivement, il y a deux grandes catégories dans la préhistoire, qui est celle des inventions, des agricultures, donc ça, c'est le domaine de Jean-Guilaine. Mais avant, il s'est passé une histoire encore beaucoup plus longue, évidemment, qui est celle donc des origines d'Homo sapiens, et puis nos relations avec les hommes de Néandertal, de Denisova, et puis avant, les Homo erectus. Vous savez, une des grandes découvertes des 30 dernières années, c'est de constater qu'en fait, il y a toujours eu plusieurs espèces humaines contemporaines. Et moi, quand j'ai commencé, et c'est ce que je raconte dans ce livre, quand je suis rentré en paléanthropologie, c'était le triomphe de Sapiens. Donc, vous savez, l'homme descend du singe, qui est la plus grosse bêtise qu'on ait jamais racontée. Et ensuite, voilà, ça allait tout droit, comme si l'évolution était destinée à la domination de notre espèce sur la Terre. Et en fait, on voit les conséquences de cette vision aujourd'hui, parce qu'on commence à comprendre que nous, les sapiens, on est les derniers, en fait, sur cette Terre, parmi une lignée qui était jadis, quand même, extraordinairement diversifiée.
Voilà, c'est ce qu'on apprend un petit peu dans votre... Enfin, c'est ce qu'on apprend tout court, je dirais, dans Itinéraire d'un enfant des Trente Glorieuses. On retrouve l'évolution de la lignée humaine sur ces 50 dernières années. Et c'est ce que vous voulez, vous, enseigner aux lecteurs, leur dire arrêtez de croire qu'on descend du singe. Finalement, c'est ça.
Oui, d'ailleurs, vous savez, les chimpanzés, on l'a découvert au sens de l'humour, et vous leur dites l'homme descend du singe, ils sont morts de rire. Bon, plus sérieusement maintenant, oui, en effet, il y a une articulation double dans ce récit. C'est d'abord la transformation de nos sociétés et de la planète au cours des 60 dernières années. C'est avant l'histoire des Trente Glorieuses à aujourd'hui. Et comment aussi, d'un autre côté, on a eu un regard différent et aussi beaucoup plus de découvertes qu'on imaginait, notamment avec la paléogénétique, vous savez, on a la génétique de nos ancêtres maintenant, sur la transformation de la planète. Donc, une double articulation dans ce récit, à travers mon parcours, qui n'est pas ce que je crois, ou vous voyez comment j'ai réussi, ça, on s'en fout, et les lecteurs, et les auditeurs, les auditrices auraient parfaitement raison d'avoir cette réflexion. Non, c'est comment, à travers mon parcours de vie, ça a été une avancée en tout cas, changement de nos sociétés, car en fait, depuis 50 ans, 60 ans, même la population mondiale était pliée par 3. Une évolution comme jamais, notamment avec les technologies. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Et ça, voilà la leçon qu'il faut bien comprendre. L'évolution, c'est pas le grand passé. C'est formidable, le métier de Jean, Guylaine, ou le mien, et puis nos collègues et collègues. Mais l'évolution, c'est pas ça. L'évolution, c'est quelles seront les chances de réussite des générations futures. Donc Darwin parlait de descendance avec modification. Ce que nous faisons aujourd'hui conditionne le jeu des possibles de notre descendance. Et il est vrai qu'il est temps aussi de faire un bilan de ce qu'ont été ces 30 glorieuses, une évolution comme jamais. Et toute adaptation est un compromis. Il y a des choses qu'on a fait bien, il y a des choses qu'on a faites pas bien. On a mis du temps à réagir sur les règlements climatiques, on a mis du temps à agir sur les biodiversités. Et surtout, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que on n'a jamais connu dans l'histoire de l'humanité une période où on a vécu 5 générations en même temps. Vous vous rendez compte, 5 générations en même temps. Donc ça donne un regard un peu différent sur le devenir de l'humanité. Et puis moi, j'étais dans la fondation Nicolas Hulot à un moment donné, j'interviens sur les enjeux de société aujourd'hui, justement à travers le prisme de ces changements que l'on a connus. Et qui, donc en fait, c'est un petit peu, venez, voyez et critiquez. Voilà, venez, voyez et critiquez. Et de repenser comment toutes les générations qui sont réunies aujourd'hui peuvent construire un projet commun. Et là, je vous en prie.
Non, c'est un petit peu ce que vous allez proposer cet après-midi avec Jean Guylaine, en fait.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire comprendre notre, mettre en jeu les possibilités d'un avenir commun, c'est effectivement d'avoir déjà un récit de notre origine commune. Comme vous le savez aujourd'hui, il y a beaucoup de tensions dans le monde entre des obédiences religieuses différentes, mais aussi des économies différentes. Donc aujourd'hui, on connaît de grands bouleversements, vous connaissez l'actualité comme moi, mais une des conditions nécessaires pour que nous puissions avoir un récit commun, d'un devenir commun avec la diversité des populations humaines actuelles. C'est pas de se dire tout le monde dans le même moule, ce qui a été d'ailleurs le péché de l'Occident. On a balancé notre succès depuis la Renaissance, on a cru que tout le monde allait s'aligner sur ce que nous sommes. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et ce sera jamais le cas. Et une des grandes leçons des travaux de la période de Jean Guylaine et de la période qui précède, qui est la mienne, si je puis dire, c'est qu'on sait qu'il y a eu toujours beaucoup plus de diversité, de cultures, et d'espèces et de populations. Et donc le vrai enjeu, c'est pas de dire l'avenir, c'est ça, c'est de dire comment construire un avenir avec plusieurs facettes. Et une des conditions nécessaires, c'est d'un récit des origines communes. Et qui apporte le récit des origines communes de toutes les populations humaines actuelles, quelle que soit leur diversité, leur culture, leur religion ou pas, c'est nous les préhistoriens.
C'est ce que vous allez nous raconter cet après-midi. Si Pascal Pic vous a captivé autant que Jean Guylaine, venez les rencontrer. Intervention de 14h30 à 15h15 à l'espace rencontre du Salon du Livre du Grand Narbonne. Un dialogue intitulé « L'appel de la vocation, l'élan de la passion ». Et là, tout est dit.
Merci beaucoup. Venez la partager avec nous.
Merci beaucoup. Je vous laisse parce que je vois que vous avez du monde qui vous attend. Stand numéro 1, n'hésitez pas, juste à droite à l'entrée du Salon du Livre. À bientôt et merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà, donc Jean Guylaine, Pascal Pic, eh bien, on va se diriger vers un quatrième rendez-vous sur ce Salon du Livre du Grand Narbonne qui dure, je vous le rappelle, encore jusqu'à cet après-midi à 17h. Et moi, je vous conseille de venir maintenant. Vous savez qu'il y a certains auteurs qui ne sont pas d'ici forcément et qui vont devoir repartir peut-être en début d'après-midi. Donc, si vous voulez les rencontrer, venez maintenant. Mais cet après-midi, il y a aussi pas mal d'animations. N'hésitez pas à aller voir le programme du Salon du Livre du Grand Narbonne. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Marilyn. Il est 11h48. On fait une courte pause. Grand Sud FM. 11h54 sur Grand Sud FM. On va retrouver tout de suite Thomas depuis le Salon du Livre du Grand Narbonne avec une nouvelle invitée.
C'est ça, Jean-Michel. Je suis au niveau du stand de 14 avec deux nouvelles invitées. Cette fois-ci, je suis avec deux autrices et même photographes. Sophie Nanteuil, du coup, l'autrice du livre Les Femmes de la Nuit, et Cécile Boyer, dit Poulette Magique aussi, la photographe. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, du coup, avec vous, on va revenir sur ce livre, Les Femmes de la Nuit, que vous avez écrite avec aussi Marie Evert. Donc, la partie photo, je l'ai dit, était gérée par vous, Cécile Boyer. Donc, Poulette Magique, je le rappelle, un nom quand même assez marrant. Est-ce qu'on peut revenir, Sophie Nanteuil, sur ce que raconte ce livre?
Alors, ce livre, c'est un livre donc de témoignages et de photos de femmes qui travaillent la nuit. Donc, on plonge dans leur univers. On a 12 grands témoins. Donc, on est allé dans les coulisses d'un hôpital, dans les coulisses d'un commissariat. On a rencontré des femmes restauratrices, éducatrices, femmes de ménage. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'elles ont partagé leur expérience. Et il y a d'autres femmes, enfin, elles sont 12, et il y a une soixantaine de femmes qui commentent ce qu'elles disent. Parce qu'on se rend compte, en fait, que les problématiques de la nuit, quel que soit le métier, il y a des gros points communs, et même entre une gogo danseuse, une éduque et une routière, par exemple.
Et comment vous est venue cette idée de créer un livre sur les portraits des femmes qui travaillent la nuit, justement ?
En fait, j'ai reçu une pub sur les réseaux sociaux d'écouteurs, qui permettent de courir tout en entendant le bruit aux alentours. Et il y avait en photo une femme qui court la nuit. Et je me suis dit que, à un moment donné, depuis quelques années, la nuit n'était plus un endroit sécurisé pour les femmes. Et j'avais envie d'aller à la rencontre de ces femmes-là pour savoir, elles, si elles avaient peur, si elles avaient des histoires à raconter, une ambiance. Hein. Et donc voilà, c'est pour essayer de faire en sorte que la nuit appartienne à tout le monde. C'est pour montrer que justement, ces femmes, elles n'ont pas peur et qu'elles font tourner aussi notre société, qu'elles sont invisibles et il fallait qu'on les voie enfin.
Donc on a dit, il y a plusieurs portraits à retrouver sur ce livre, les femmes de la nuit. Et est-ce que dans l'Aude, on va retrouver justement quelques personnes ?
Alors dans nos grands témoins, on a Sophie Clignac, qui est la restauratrice qui tient le Café Raisin à Gruissant, qui est un bijou de gentillesse, d'humour et qui est hyper talentueuse. Et Sophie, c'est elle qui nous a ouvert des portes la première, c'est celle avec qui on a fait les tests pour les photos, tout ça. Donc voilà, on a Sophie. On a Mathilde Dumacard qui témoigne aussi. On a Sarah aussi, une éduque de Narbonne. Enfin, on a pas mal de personnes de l'Aude parce que Cécile avait fait des appels sur les réseaux sociaux et forcément ici ça a bien réagi.
Oui, parce qu'on le rappelle, vous êtes toulousaine, Sophie Nanteuil, Cécile Boyer, vous êtes narbonnaise, pur produit du coup de chez nous. Et d'ailleurs, je vais me tourner vers vous pour la deuxième partie un peu de cette interview. Vous êtes photographe pour ce livre, vous êtes aussi autrice. Mais comment est née cette idée de collaborer avec Sophie Nanteuil pour ce livre ?
Alors Sophie m'a contactée sur Instagram avec ce projet assez fou, m'a demandé si on pouvait s'appeler pour en parler. Et en fait, le feeling est hyper bien passé dès le début. Et après, ça a été une histoire au final d'amitié parce que le livre s'est transformé en plusieurs nuits ensemble. Voilà, on a vraiment vécu la nuit au rythme des femmes que l'on a photographiées, interviewées. Et du coup, c'est assez beau parce que c'est devenu une véritable histoire d'amitié derrière.
Et donc, dans ce livre, donc, toutes ces nuits que vous avez pu passer ensemble et à suivre un peu toutes ces femmes, quelle rencontre vous a le plus marqué, vous, Cécile Boyer ?
Alors moi, toutes les rencontres m'ont quand même marqué, mais la plus rigolote pour moi, c'était la rencontre avec Josie, parce que du coup, elle est femme de ménage, elle nettoie très très vite et j'ai passé littéralement tout le shooting à aller courir après. Parce que comme elles travaillent, nous on les suit en fait, c'était vraiment pas quelque chose de posé, donc il fallait vraiment les suivre dans leur quotidien et c'était très drôle, on l'appelait Speedy, parce que du coup elle passait très très vite, elle me disait regarde, et je lui courais derrière et tout était flou, donc c'était très marrant.
Ouais, le but c'était de pas les déranger dans leur boulot, c'est vraiment de les suivre en pleine activité. Et vous, Sophie Nanteuil, pardon, quelle rencontre qui vous a le plus marqué pour ce livre ?
Alors moi, il y en a deux. Il y a d'abord Ivy, qui est conductrice des métros à Paris. Donc Ivy, c'est une femme trans, donc elle a parlé aussi de toutes ces problématiques-là. Et pour la petite histoire, on a shooté Ivy à 16h30 dans le métro parisien, parce que dans le métro, il n'y a pas de nuit ou de jour, donc on a un petit peu triché. Et à la suite d'Ivy, le lendemain matin, à 6h du matin, on s'est réveillé avec Muriel, qui est boueur à Paris aussi. Donc on l'a suivi dans les rues de Paris quand la ville s'éveille. Et Muriel, c'est un bonbon, quoi. Muriel, elle nous a accueillis avec générosité. Elle a une histoire très dure et pourtant elle a toujours le sourire. Et même encore maintenant, Muriel, elle nous envoie des vocaux, elle nous fait des petits coucous, elle m'envoie une carte postale. Enfin, voilà, on est en contact avec toutes ces femmes-là encore maintenant, quoi.
Oui, voilà, c'est intéressant parce que vous avez créé du contact pour ces femmes, parce que le but de ce livre, voilà, c'était de les mettre en avant, mais c'était aussi de créer du lien social autour de ces femmes qui étaient un peu coupées du monde.
Oui, tout à fait, en fait. Et puis surtout, Josie, par exemple, elle ne comprenait pas qu'on s'intéresse à elle. Elle disait, mais moi, je fais juste le ménage, pourquoi vous venez me... Et on a expliqué à Josie que ça permettait aussi de montrer à tout le monde que le ménage, ça se fait pas tout seul, qu'il faut avoir une force de caractère. Josie, quand elle se retrouve face à deux cambrioleurs qui lui disent, donnez-nous les clés, enfin, il faut en avoir aussi derrière. Donc voilà, et donc c'est vraiment... on voulait vraiment les mettre en avant, leur donner, leur tendre le micro. Et je suis assez fière de nous et du résultat.
Ouais, donc un livre très intéressant à retrouver du côté du stand 14 du Salon du Livre du Grand Narbonne avec ce livre de Sophie Nanteuil et de Cécile Boyer ici présent pour l'interview Les Femmes de la Nuit. Et est-ce que vous avez des projets pour la suite, Sophie Nanteuil ?
Alors moi j'en ai des projets, j'ai un projet de livre sur le harcèlement qui sort en septembre. Là j'ai une petite série Julio pour les 2-4 ans, j'ai des nouveaux titres pour l'année prochaine. Voilà, il y a d'autres projets jeunesse aussi. Et avec Cécile on a un projet qu'on aimerait bien faire, mais il faut qu'on le peaufine un peu et on vous en parlera peut-être.
Peut-être sur une prochaine interview, je vais revenir sur cette question aussi avec vous. Cécile Boyer, vous avez d'autres projets en plus que le projet commun de Sophie Nanteuil?
Moi, je suis en train de finir un livre de 50 tutos pour les enfants autour du recyclage. Et en fait, ça va être que des tutos à faire avec tout ce qu'on a à la maison pour les petits. Et ça va être très, très cool et assez un univers magique. Et voilà, ça va être chouette, ça sort en septembre.
Eh ben super. Merci beaucoup en tout cas. Merci Sophie Nanteuil et Cécile Boyer d'avoir répondu à mes questions. Et je rappelle que votre livre, Les Femmes de la Nuit, est présent sur le stand 14 du Salon du Livre du Grand Narbonne. Bonne journée.
Merci, bonne journée.
Merci.
Voilà Jean-Michel, on va maintenant partir du côté du stand numéro 13 pour retrouver Monsieur le Chien avec Marilyn.
Merci Thomas. Sur Grand Sud FM, il est midi 2 et nous repartons sur le Salon du Livre de Grand Narbonne sur le cours Mirabeau. On va retrouver Marilyn avec Monsieur le Chien.
Tout à fait, je suis sur le stand de BD et compagnie, le stand numéro 13, et je suis en compagnie de Monsieur le Chien, que beaucoup doivent connaître. Bonjour.
Bonjour à tous.
Donc vous êtes là encore aujourd'hui avec le petit théâtre des opérations. Ça c'est le tome 4, on va en parler, mais en tout cas, si on est amateur de magazine, du magazine de bande dessinée Fluide Glacial, je pense qu'on vous connaît forcément. Hein.
En tout cas, je l'espère, ça m'aidera dans mon prêt immobilier. Mais c'est vrai que là on est un peu une des têtes d'affiche, si j'ose dire, du magazine Fluide, mais il s'avère qu'on amène quelque chose qui précédemment se voyait pas nécessairement chez Fluide, à savoir qu'on parle de choses entièrement vraies au lieu de faire juste de la déconnade, si vous me passez l'expression. Et donc sur ces choses vraies, historiques et sourcées, on rajoute quelques petits détails poète-poète afin de rendre tout ça accessible et si possible que les gens passent un bon moment. En tout cas, ça a l'air d'être le cas.
Voilà, on vous retrouve avec ça, le petit théâtre des opérations. Vous êtes avec Julien Hérieux qui est scénariste et vous avez sorti le quatrième tome et vous êtes là pour nous présenter cette BD. Effectivement, il y a de la dérision, mais tout est vrai. C'est-à-dire que si on aime l'histoire, on peut lire votre BD.
Absolument. Alors, évidemment, ça ne vaudra jamais le rayon histoire de votre librairie la plus proche, mais en tout cas, pour donner le goût à tout un tas de vos amis ou de gens qui diraient « Oh, moi, l'histoire, c'est vraiment pas mon truc », c'est une recension de personnages, alors la première de la Seconde Guerre mondiale, avec une petite échappée en Indochine récemment, mais ce sont donc tous des personnages qui sont assez folkloriques. En plus, alors, qui sont avant toute chose extrêmement courageux pour l'essentiel et qui sont en plus folkloriques. Donc ça permet de rendre tout ça intéressant pour les gens qui d'habitude trouvent que c'est une matière un peu rédhibitoire. Et c'est fait sous forme de petites histoires. Il y a un petit côté tapas, si je peux me permettre. C'est-à-dire que ça n'a pas prétention, évidemment, à faire un portrait in extenso des différents personnages abordés, mais en tout cas de survoler, on va dire, l'essentiel de leur carrière ou l'essentiel d'une bataille, parce que ça peut être aussi des batailles un petit peu folkloriques. Et puis, pour ceux qui sont un peu perturbés par ça, auront envie donc d'aller dans les rayons histoire des librairies.
Voilà, donc vous n'hésitez pas. Vous êtes tous les deux avec Julien Hervieux, des passionnés d'histoire, finalement, vous diriez, Monsieur le Chien?
Oui, complètement. Alors il s'avère qu'on était copains avant ce projet-là. Et puis quand l'éditeur est venu chercher Julien là-dessus, il s'avère qu'ils ont pensé assez naturellement à moi, d'une part parce que en effet j'étais son camarade, et d'autre part parce que bon, il savait que j'avais un goût assez prononcé pour toutes ces choses et pour la geste militaire française en particulier.
Alors moi je vous appelle là Monsieur le Chien, tout le monde doit se dire pourquoi elle l'appelle comme ça, c'est votre pseudo, j'ai vu qu'on vous appelait parfois Clébard, Chien tout court, pourquoi, comment est né ce pseudonyme?
La vie de couple. Non, non. En réalité, c'est ça, ça date de l'époque des blogs BD au début. De... je vois que ça vous rappelle des souvenirs. ça date de l'époque des blogs BD. Moi, j'ai émergé avec ça au début des années 2000. Et à l'époque, j'avais l'impression que tous les gens qui pratiquaient avaient des noms un peu à la retourne et qui ressemblaient plus à des borborygmes qu'à autre chose. Et donc, je me suis dit, bon, bah voilà, moi, je vais raconter la vie de Monsieur Tout le Monde, Monsieur, Monsieur. Puis j'ai eu une espèce d'éclair entre mes shoots d'héroïne et mon Coca Light. Et du coup, j'ai eu l'image d'un chien, enfin d'un bull terrier pour être précis, avec un nœud papillon. Et voilà, c'est devenu Monsieur le Chien. Et maintenant que le nom est capitalisé, ben je le garde. Et puis il y a un petit côté, en général, les gens, un, s'en souviennent bien, et puis ils trouvent ça plutôt sympathique. Bon, impression qui en général est refroidie à ma connaissance après, quoi.
Ok, donc Monsieur le Chien, moi j'aimerais en savoir plus sur vous. Comment est-ce que vous avez commencé? Quand est-ce que vous avez commencé? Et comment vous êtes lancé dans la BD?
Alors, j'ai commencé en fait il y a longtemps, vraiment longtemps. Parce que là j'ai l'air d'avoir 28 ans, mais en fait je suis un tout petit peu plus vieux. Et j'avais enchaîné en fait beaucoup de signatures de contrats, mais il s'avère que pour ceux qui m'écoutent et qui ont envie de se lancer dans la BD, la BD c'est du showbiz avec moins d'argent. Donc il y a beaucoup de sourires et beaucoup de coups de couteau dans le dos. Et donc j'ai eu beaucoup de coups de couteau dans le dos et il m'a fallu du temps pour en fait arriver à une vraie publication. Ça s'est fait d'ailleurs par le biais des blogs BD où en fait là j'étais devenu assez gros, donc repérable, j'étais rentré dans le radar des uns et des autres et puis petit à petit voilà, j'avais même été approché un moment par Gottlieb suite à ce blog. Et donc, je peux dire que depuis son décès, c'est officiel, je suis le seul dessinateur au monde à avoir été pistonné par Gottlieb et néanmoins jeté de fluide glacial, ce qui est un vrai talent. Et donc, au final, 5 ans plus tard, suite à un changement de direction éditoriale, j'ai pu enfin accéder chez Fluide, où depuis, je produis l'essentiel de ma production.
Voilà, c'est ce que j'avais lu effectivement. Donc, Monsieur le Chien, si vous voulez le rencontrer, vous venez sur le stand de BD et compagnie, le stand numéro 13. Est-ce que vous êtes là toute la journée?
Jusqu'à 16h30, si je ne m'abuse.
Donc, 16h30, hein, si vous êtes passionné d'histoire, si vous aimez la BD, en fait, venez voir le petit théâtre des opérations. Est-ce qu'on prépare un tome numéro 5 ou pas?
Alors, un tome numéro 5, un tome numéro 6, etc. Parce qu'en fait, c'est une série qui marche plutôt bien. Donc, en tout cas, actuellement, je suis sur le tome 5, qui là changera un petit peu sur la formule, puisque ça va être un seul et unique personnage dont on va découper la vie en épisodes, histoire de varier un petit peu les plaisirs, puis la narration. Et puis après, normalement, il devrait y en avoir d'autres. En tout cas, en parallèle, alors c'est fait par d'autres équipes de dessinateurs. Il y en a un qui a tendance féministe, qui s'appelle Toujours Prête, et qui là n'aborde que des femmes courageuses pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et il va y avoir une version sur les guerres napoléoniennes, peut-être même sur la Révolution, qui devrait sortir le 5 juin, si je ne m'abuse. Et là, c'est une époque extrêmement riche avec ces personnages courageux et folkloriques, puisque bon, à l'époque napoléonienne, enfin, on soulevait une pierre, il y en avait 15 qui sortaient. Voilà, donc ça devrait sortir le 15. C'est une autre équipe, c'est deux autres dessinateurs de chez Fluide qui travaillent là-dessus.
Bon, ben, n'hésitez pas à vous renseigner, hein, tous les fans, et puis venez voir, je vous le redis, Monsieur le Chien, stand numéro 13, BD et compagnie. Je vais vous laisser finir votre illustration, je vois qu'on me regarde, hein, on doit se dire que je vous prends du temps, je vous laisse finir vos illustrations, et retournez voir vos fans, à bientôt, merci.
Au revoir, merci beaucoup.
Voilà, donc n'hésitez pas, c'est le Salon du Livre du Grand Narbonne. Nous, on a terminé pour aujourd'hui, mais beaucoup d'auteurs sont encore là pour vous cet après-midi. Il y a des rencontres qui sont prévues. Vous savez qu'on a Pascal Pic et Jean Guilaine cet après-midi. Il y en a d'autres, donc allez voir le programme du Salon du Livre du Grand Narbonne sur le site internet. Et puis, venez faire un tour, il fait beau et vous allez rencontrer des auteurs sympas et des dessinateurs sympas comme Monsieur le Chien. Je vous dis bon appétit à tous et puis on se retrouve demain sur Grand Soir. Sud FM. Merci Jean-Michel et à bientôt.
Ciao, ciao. Merci Marilyn. Merci aussi à Thomas. Fin de cette émission spéciale Salon du Livre du Grand Narbonne. Place à la musique tout de suite. On écoute Mylène Farmer. Bonne mi-journée. Bon appétit.